ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Spiritualista. Bonjour ou bonsoir, je suis Amel et toutes les deux semaines, je te propose un nouvel épisode de Spiritualista. Spiritualista, c'est ton podcast initiatique dans lequel je partage avec toi mes solo time où je pars en totale improvisation, je dirais plutôt en introspection. On peut carrément dire que c'est mon âme qui entre en communication directement avec la tienne et je réalise aussi une fois par mois une interview avec une personnalité inspirante qui a des clés initiatiques à nous livrer pour nous permettre de vivre notre expansion de conscience dans la paix, l'amour et la joie. Oui, et de la joie, on en a bien besoin en ce moment pour garder notre vibration la plus haute possible, pour nous permettre d'avoir notre vision drone, celle qui nous permet de prendre de la hauteur sur tout ce qui se passe ici-bas sur Terre. Alors bienvenue à toi, mets-toi à l'aise, prends-toi un petit thé, c'est parti, c'est le nouvel épisode de Spiritualista, j'espère que tu vas kiffer, c'est parti. Je l'ai découverte il y a un peu plus d'un an sur Instagram. J'ai découvert ces vidéos inspirées et inspirantes et ça m'a tout de suite parlé. C'est une chamane qui parle directement à nos âmes. Elle est thérapeute, sexologue et conteuse poétique et mystique. Je suis honorée de recevoir celle qui diffuse le mieux l'esprit sacré du chamanisme. Mon invitée pour ce 39e épisode, c'est Ghislaine Duboc. Bienvenue Ghislaine dans Spiritualista.
Merci.
Alors Ghislaine, on va sauter dans le grand bain. J'aimerais qu'au travers de vos mots, de votre vibration, vous nous parliez du chamanisme et de la vision plutôt contemporaine que vous transmettez. Du chamanisme. Qu'est-ce que c'est au juste le chamanisme ? Qu'est-ce qu'il représente là en 2022 ? Est-ce qu'il a plusieurs définitions ou c'est toujours la même ?
Je crois que le chamanisme, il faut savoir que c'est un mot qui vient bien entendu des occidentaux, des ethnologues qui sont allés voir les diverses tribus. Hein. Et c'est un mot qui englobe beaucoup de fonctions hein, pour celui qui observe. Il pense c'est pas un médecin, c'est pas un chef, c'est pas un prêtre, c'est pas. Hein. En fait, on le définirait plus quand on le regarde à partir de nos critères et notre façon d'analyser les situations, à part ce qu'il n'est pas et tout ce qu'il est, hein, puisque nous, on dit les rôles de chacun. Pour moi, quand on rencontre ce qu'on appelle des chamans, c'est très différent selon les tribus. Il y en a qui pourraient être plus proches des gourous, des prêtres de chez nous. Et puis, ceux dont je suis sensible, et il y a une personne qui les a décrits il y a fort longtemps d'une façon intelligente et provocante, hein, puisqu'on a dit que c'était une révolution copernicienne. C'est Pierre Clastres qui a analysé vraiment ce que ces tribus qui ont des chamans tels que moi je le conçois, c'est-à-dire qui sont à l'intérieur du cercle, qui ont une voix, pas plus qu'une autre, hein. Et c'est cette idée d'avoir peur du un, de celui qui est au-dessus, et de constamment s'organiser pour qu'il y ait ce cercle et le tout. Hein, c'est du multiple né l'unité, alors que nous, c'est l'unité, le un, hein, qui va s'appliquer au multiple. Alors, après, qu'est-ce que c'est qu'un chaman ? C'est-à-dire, quand on nous dit « tu veux devenir chaman », parce qu'aujourd'hui, on met ça comme une école, hein, où on pourrait avoir deux niveaux, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Alors moi, je ne vois pas du tout comme ça. Je comprends très très bien que cela existe et soit très adapté à notre conditionnement de bon élève, mais ce n'est pas ce que je vis, ce n'est pas ce que j'enseigne. Pour moi, le chamanisme, c'est le retour à l'être entier, c'est-à-dire la connexion avec le corps et la vue, la perception qui part du corps pour créer des images. Vous voyez, c'est quand même très très différent. C'est-à-dire, je pars de ce que je sens et ce que je sens crée ma réalité, m'envoie des images. Alors que nous partons de la loi pour créer une image, d'une sensation, de l'image pour arriver à la sensation. Alors après, selon les vibrations, puisqu'on est des instruments de musique, on a des perceptions plus ou moins larges, plus ou moins connectées. Moins on a peur de la mort, c'est-à-dire plus on met le mot transformation à la place de mort, plus l'unité de l'être s'exprime. Et à partir de là, vous avez des Mozart, et puis vous avez des musiciens comme nous tous. Donc, c'est ça qui est important, c'est d'éveiller cette aptitude à la musique du monde.
Waouh, voilà. C'est passionnant. Et justement, je me pose la question, Ghislaine, est-ce qu'on peut se dire que cette vision finalement chamanique du monde, c'est certainement le meilleur moyen de cultiver le vivre ensemble ?
Oui, parce que quand on est en cercle, personne n'est au-dessus, ce qui fait que tout le monde est dans la chaîne. Quand on est dans la chaîne, on ne se pose pas la question de la place. Et une fois qu'on a plus cette tyrannie d'être à sa place et qu'on a juste le besoin de la vivre, alors oui, le monde peut changer. Et c'est pour ça que c'est important, à mon avis.
Spiritualista.
Ghislaine, donc vous êtes aussi sexologue. Voilà, vous accompagnez les couples. En ce moment, je suis en train de préparer un dossier spécial sur la spiritualité, la sexualité. Je suis ravie de pouvoir vous interviewer aussi pour vous demander quelle est votre approche, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que la spiritualité a quelque chose à faire dans nos lits ?
À ma façon, j'appellerais pas ça spiritualité. Et à nouveau, quand on met spiritualité, tout est spiritualité. Je bois.
Bien sûr.
Le monde, spiritualité, c'est l'esprit du vivant.
Oui.
Tout ce que je fais est la danse de l'esprit du vivant. Mais à nouveau, dans notre conditionnement, on met, là il y a le sexe, là il y a l'amour, là il y a ceci, il y a cela, on est toujours en train de diviser. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que la sexualité, quelles que soient les religions, a été l'espace qu'on a voulu le plus organiser et mettre des lois dedans. Alors, la façon de le faire, de comment le faire, la vibration, quelle que soit, ou de l'interdiction de le faire, quelle que soit la religion, elle met là. Alors, on ne trouve pas ça chez les Indiens parce que le corps est une danse de vie, hein, mais dans d'autres populations aussi, ils le font, pas que chez les Indiens, hein, chez les Inuits, chez d'autres, on trouve une autre expression du corps. Pourquoi nos religions ont voulu codifier la sexualité ? Parce que c'est l'espace de la transe. Et quand on va à l'esprit du monde, c'est-à-dire qu'on a une réalité collective fabriquée par la loi, eh bien, la première chose qu'il faut faire, c'est couper les jambes du corps et donc de la transe. Si je vais à la sexualité avec mon corps, vraiment, à ce moment-là, je risque de rentrer dans une transe qui me fait goûter le rapport avec la vie. C'est la vie qui me pénètre dans l'orgasme. Alors, je m'explique. Quand j'aime quelqu'un ou pas, qu'importe, mais si je l'aime, ce que je vais aimer chez lui, c'est qu'il me voit sans jugement et qu'il accepte mon monde tel qu'il est. Bien. Ou alors, il ne me connaît pas. Dans ces cas-là, c'est une autre possibilité. Dans les deux cas, quand l'être est soit accepté, soit inconnu, on accepte d'être un objet de désir pour l'autre. Je me donne à toi. Donc, on devient un objet, comme un tambour. Hein,
oui.
On se donne à l'autre. Et si on ne le connaît pas, on est directement un objet. D'accord ? Bien.
Oui.
Mais si on se connaît et qu'on a été accepté, il y a cette notion d'être aimé qui amène à la source de vie au départ pour se lâcher. Ça, c'est quand même une vibration intéressante. Au moment où l'autre n'est qu'une prolongation que moi, de moi, c'est comme quand on fait un rock. Je ne regarde pas ses pas, sinon on est foutu. Et si je danse bien, comme disait, c'était Fred Astaire, qu'on lui disait, quelle est la meilleure danseuse que vous avez? Ben, celle qu'on ne sent pas. C'est-à-dire quand on devient un prolongement.
Oui.
Alors, quand on arrive à l'acte sexuel, c'est-à-dire qu'on se donne à l'autre ou qu'on prend l'autre comme un objet, eh bien, ce qui est important, c'est de rentrer dans la vibration du corps. Au moment où je touche l'autre, je ne m'occupe pas de ce qu'il ressent, je m'en fous. Ce que je comprends, c'est comment cette connexion agit en moi. Ce que je disais tout à l'heure, une part de nous. Il y a une part de moi qui s'éveille. Et très souvent, la danse est une danse qui fait peur parce que c'est une danse de soumission extrême ou de pénétration extrême, c'est-à-dire je vais me disparaître dans l'autre ou je vais être noyé par l'autre. L'autre étant la vie. C'est-à-dire que c'est pour ça que souvent ça fait peur le sexe parce que quand on pensait qu'on est tout seul pendant le rapport sexuel paraît compliqué. Surtout avec les codes qu'on a eus sexuels pendant quelques centaines d'années. Donc, dire l'autre me sert, je m'en sers comme une vibration qui augmente ma vibration et qui m'amène à un lâcher prise. Et pour le lâcher prise, eh bien, ce sont toutes les images de soumission qu'on a. Alors, plus on est dans le contrôle dans la vie, plus les images de soumission qui viennent peuvent être effrayantes. Mais on va au fond de la nuit de soi, dans cette peur où même quand on est soumis, on est encore celui qui commande. Hein? Donc, plus j'ai été puissant dans la journée, c'est pour ça qu'on voit que des hommes puissants ont des sexualités très, très, très compliquées.
Oui, au Quai d'Or, voilà, et dans des jeux de soumission.
Voilà. Oui, parce qu'il faut lâcher ça, parce que même soumis, il reste le maître. Donc, les images, les fantasmes qui peuvent venir à ce moment-là sont effrayants, mais au bout d'un moment, il y a ce oui encore, quel que soit ce que je vois, qui est le oui de la vie à toutes les danses. Et là, l'orgasme est un orgasme qui étonne parce que des fois, on peut vomir, des fois, ça peut être comme si on sortait des enfers, des fois, c'est au contraire un paradis avec une légèreté, des fois, c'est juste qu'on ne sait pas si c'est de l'électricité, mais au moins, la vie nous pénètre et nous soigne. C'est pour ça que c'est une transe tellement importante qu'on a avec un être humain, mais on peut trouver des transes étonnantes aussi dans une prairie chaude. On peut, c'est que quand on se connecte dans cet espace masturbatoire à ce moment-là ou avec un élément de la nature, on peut rencontrer cet endroit où il y a le oui à la vie. Quoi que tu m'envoies, et la vie nous en envoie quand même des difficultés, des douleurs, des incompréhensions, des c'est pas juste, des je suis maudit, etc. Elle nous en envoie. Et on est un peu comme Job, on dit encore oui. Et c'est ça. L'orgasme suprême, et c'est pour ça que quelque part on n'a pas envie d'y aller, parce qu'on dirait presque que c'est la nuit, la rencontre de la nuit, et de toutes ces images interdites, et de ces vies interdites que nous avons, qui nous amènent à la lumière. Alors, quand sur le fumier, on fait fleurir un orchidée, alors le monde étonne, et là, la religion est contente.
Waouh, merci, c'est tellement beau et poétique, Ghislaine. C'est super beau d'entendre parler d'amour, de sexualité, de sexe, de désir avec autant de beauté, de poésie. Mais je me pose la question, j'ai l'impression que les gens ont un peu oublié comment on nous apprend pas à aimer, on nous apprend pas à accepter l'autre tel qu'il est, et j'ai l'impression que. Il y a pas mal d'études qui ont été faites sur les habitudes sexuelles. Grosso modo, les gens font de moins en moins l'amour. Comment retrouver ce chemin vers l'autre d'une façon authentique, apaisée et en étant détendue? Parce que j'ai l'impression que ça devient de plus en plus complexe d'échanger avec l'autre et encore plus de se retrouver dans le même lit.
Bah, c'est qu'on a quand même les problèmes des images. Hein. Les images, ça tue l'espace qu'on a de fantasmes naturels. Et les fantasmes naturels n'existent que si les interdits religieux, culturels sont autorisés. Donc, ça demande un travail sur soi. L'espace sexuel aujourd'hui n'a jamais été autant chrétien qu'aujourd'hui. Pourquoi? Chrétien ou musulman ou ce que vous voulez. Pourquoi? parce que c'est le film porno qui gagne. Mmh. Il devient le mode d'emploi. Et le film porno, c'est l'expression même de la relation sexuelle acceptée. C'est-à-dire, la femme n'a aucun plaisir, elle est un objet, et c'est l'homme qui doit jouir. Donc, toutes les différentes expressions sexuelles, comme elles sont mises, il n'y a pas d'orgasme féminin. Très peu. Il y a surtout l'homme qui doit arriver au but. C'est à peu près ça. Et oui. Cette humiliation des corps, parce que le corps, quand il danse, ne doit pas être vu. Puisque c'est la vibration qui prend la place. Si je reste dans le corps, c'est comme si je regardais le mode d'emploi d'un magicien. J'ai plus la magie. Donc, on tue la magie. On ramène au corps et on le ramène dans la dynamique. Il ne faut quand même pas oublier que depuis des centaines d'années, dans nombre de concepts sexuels, c'est la femme ne doit pas jouir parce que c'est une salope. Ça, c'est la première étape. Et donc, il faut penser à la souffrance d'un homme. Évidemment, lui, on l'a coupé avant la femme de son corps. Hein, il doit être la loi. Mais pénétrer une femme qui ne doit pas avoir de désir, il faut quand même s'imaginer quel process dans la tête il faut avoir pour pouvoir bander. C'est quand même compliqué. On rentre dans un schéma de possession et de pouvoir et aussi de courage parce que je rentre dans un corps par effraction pratiquement, mais je ne sais pas que c'est une effraction, mais c'est une soumission totale. Il faut voir quand même qu'on avait des chemises de nuit avec un trou.
Waouh, hein. Wow, oui.
C'est quand même, on part de là. Hein. Ouais. Donc, quand on imagine ça, c'est… on ferait la même chose, supposons, dans un film porno, on voit une femme avec un trou, une chemise de nuit, oh là, putain, c'est gore, ce truc. Ben, non, c'est quand même, c'était ça qui était prodé, hein. Donc, on part de là. Après, on a dit, ah, non, la femme a droit à son désir. Mais, on a gardé l'homme responsable du désir de la femme.
Oui.
Donc, ça revient au même. C'est-à-dire, je te fais jouir ou pas. Donc, à nouveau, le mec, il a une responsabilité terrible. Alors que personne ne peut faire jouir une femme qui n'a pas envie. Alors, on part de là et aujourd'hui, les images qu'on a sont compliquées parce que dès qu'on a une petite excitation, il suffit d'avoir vu un film, une image un petit peu gore, hop, ça part et en 30 secondes, vous vous êtes masturbé et puis c'est vite fait. Donc, le soulagement vient par l'image. Et combien de gens font des couples virtuels, hein, on pourrait dire, et quand ils se rencontrent en vrai, ben, ils n'ont pas envie. Parce que le corps, si j'écoute mon corps, je peux pas me taper la planète. C'est ça, avec la tête, je peux coucher avec tout le monde. Avec le corps, ça devient très compliqué.
Oui.
Mais on est parti sur l'inverse, puisque quand on était à l'époque des mariages arrangés, qui était plutôt un système économique, on n'allait pas se mettre, j'ai envie ou pas. Bref, donc c'est la tête qui faisait le plaisir.
Totalement. Voilà.
Alors aujourd'hui, on aura ce problème du corps parce que on va avoir des sensations sexuelles provoquées. On les a déjà dans certains endroits, hein, provoquées avec des comment dire, pas des robots, mais je ne sais plus comment les appeler maintenant, des corps qui sont pas humains et qui feront beaucoup plus jouir que l'humain.
Oui, comme des espèces de poupées gonflables augmentées, quoi.
Ça sera pas poupée gonflable, on aura vraiment l'impression d'être avec un corps, comme on aura vraiment l'impression d'entrer. On partira faire l'amour dans un espace et ce qui est prévu, qui est très intéressant, c'est que on va avoir un jumeau numérique qui ira dans les sites de rencontre avec où il y aura d'autres jumeaux numériques. Ils essaieront et alors si ça marche, eh ben ils reviendront vers le corps en disant écoute là il y a peut-être une possibilité, hein. Et si ça marche pas, ils diront non on n'apprend rien. Et c'est maintenant, hein.
Bien sûr. Mais oui, ça me fait penser à la série Black Mirror sur Netflix. Voilà, c'est des choses qui ont été développées déjà depuis bien longtemps. Black Mirror, c'est une série qui a été écrite et scénarisée par justement un journaliste british spécialisé dans le développement des nouvelles technologies. Donc, il en a fait une série, voilà, qui a maintenant 4-5 ans. Et en fait, on voit que ça existait déjà il y a pas mal d'années. Et là, ça va être commercialisé pour le grand public. Donc oui, c'est assez fascinant, ça va apporter de gros changements encore.
Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi il a arrêté de faire la série. Parce qu'il s'est rendu compte
La réalité a dépassé la fiction.
Non, pas du tout. Il s'est rendu compte qu'en fait, alors qu'il pensait créer un esprit de révolte, ça aurait apporté les choses, eh bien en fait, c'est rentré au contraire comme une information de plus, une communication de plus, et qu'il s'est senti désespéré à ne pas pouvoir faire bouger le monde, juste en trouvant que c'est du cinéma. Et c'est ce que je disais, quand le réel devient du cinéma et quand le cinéma devient réel, comment agir. Et c'est pour ça que moi, si je fais toutes ces vidéos ou si je suis, j'essaie de communiquer le plus et dans les groupes que j'organise aussi, c'est parce que on est à un tournant. Et ce tournant, pour certains, ça peut être merveilleux parce qu'ils vont au contraire rentrer dans leur corps et ça sera pas facile parce que rentrer dans sa sensibilité, c'est vraiment rencontrer le terroriste en soi. Et donc, il faut traverser aussi cette façon d'apprivoiser sa propre violence. Eh bien, ça, il y aura cela. Et puis, il y aura ce monde qui s'en va. Qui s'en va de l'éternité, de l'image. On va avoir informatisé le monde, enfin, numérisé le monde. Et on pensera que c'est l'aboutissement génial de l'être humain.
C'est assez troublant en réalité, et c'est vrai que bien souvent ça peut même réveiller en nous ce sentiment de se dire non, mais si je ne plonge pas dans ce monde entièrement digitalisé, ça sera le même effet que il y a 20 ans, les gens qui refusaient d'avoir internet chez eux, on va se retrouver dépassé, on va passer à côté de une certaine révolution du digital. Et comment réagir, Ghislaine, justement, quand on a peur de se retrouver seul au bord de la route?
Bah, déjà, il faut comprendre que ce qui se passe, c'est on n'est pas capable seul d'y échapper. Pourquoi? Parce que c'est très bien fait. Ça passe par l'amusement, hein, la distraction, et aussi sécurité. Donc, quand j'ai jeu et sécurité, je fais plein. D'accord? Et isolement, avec ce qu'on vient de vivre depuis 2 ans, favorise complètement cette dynamique. Donc, notre cerveau peut être piégé et d'ailleurs, on n'a qu'à regarder, est-ce que son téléphone un jour reste loin? Non. Donc, on est piégé déjà sur beaucoup de choses. Et quand on ne fait rien, on appelle ça un temps mort. Hein? Donc, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Ce qui fait que c'est important, c'est seul, je ne sais pas. Le seul moyen, et il n'y en a pas d'autre, c'est de rentrer dans le réel et de créer du lien réel. Parce que les jouissances d'être ensemble, de partager des aliments, des discussions, des expériences où on fait les choses ensemble, ramènent à une autre distraction, je vais dire, à une autre sécurité et amènent le nous. Par le nous, notre cerveau est constamment en train de bouger. Même quand on se dispute, même quand on se confronte, on bouge. Et tant qu'on reste dans le mouvement, le monde est vivant. Le problème du reste, c'est qu'on croit qu'on bouge alors qu'on dort. C'est très étonnant parce que quand on parle spiritualité, tout le temps, on vous dit éveil, éveil. Moi, je dis c'est réveil qu'il faut parler, pas éveil. Parce qu'on rentre dans un monde qui dort. On dormait avant. Mais à ce point-là, là, on a les outils pour dormir vraiment. Et notre angoisse de mort est constamment sollicité parce que la peur permet de ne plus réfléchir. Et c'est ça qui fait qu'on se distrait. Pensons à autre chose, parle-moi d'autre chose, ferme ça, ça me fait peur. Voilà. Ça, c'est ça, la réalité dans laquelle on est. Et c'est une manipulation que l'on souhaite pour pas avoir à traverser ce qui nous fait peur. Bien sûr. C'est pour ça, qu'est-ce qui peut m'amener à bouger? C'est l'amour des autres. Si je rencontre, si je me bats, on dit que c'est interdit d'aider les gens maintenant quand ils n'ont pas de papier. Ben, je me bats et j'aide les gens quand ils n'ont pas de papier, mais avec un groupe. On y part ensemble. Et là, quelque part, la vie reprend du sens. Le sens donne du sang. C'est-à-dire, chaque fois que j'ai du sang, mon corps est touché.
Et ce lien, justement, ce rapport assez anxiogène qu'on entretient dans nos sociétés par rapport à la mort. Ça vient d'où? Pourquoi on vit dans une civilisation qui a autant peur de la mort?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Parce que si je n'ai pas peur de la mort, je pourrais constamment me transformer. Comment je fais pour gérer les gens, les soumettre, puisque nous sommes dans une vision verticale du monde, comment je peux les soumettre à un rêve, les amener à participer à ce rêve dans le rôle que je leur ai choisi, enfin que le système leur a choisi, hein, et si ils ne sont pas dans une peur constante de la mort. La mort, c'est la transformation. Donc, il faut que j'inculque dès le plus jeune âge à mes enfants à ne avoir peur de se transformer. Quand l'enfant, les premiers temps, hein, ce dont on se souvient, c'est le temps où vous faites pipi, caca, vous dormez, oui. Vous pleurez, vous criez, mais vous êtes bienvenue. Bon, sauf dans les familles maltraitantes. Bienvenue, vous n'avez pas de problème de place et vous n'avez rien à faire sauf à être pour que tout le monde s'émerveille. Le problème va venir dès que vous avez commencé à avoir votre propre sensation, vos propres façons d'être et où on va te dire « Ah non, non, ça ne se fait pas. Ah non, non, tu ne peux pas parler comme ça. Ah ben si tu fais ça, maman ne t'aime plus. Ou à l'école, tu ne pourras pas aller si tu es comme ça. » Donc petit à petit…
L'amour sous condition.
Je vais apprendre… Tue cette part de toi pour pouvoir exister. Tue cette part de toi pour pouvoir exister. Donc, effectivement, celle qu'après j'ai sauvée, j'ai pas envie qu'on y touche. Il faut pas en tuer un peu plus. Hein. Donc, la mort veut dire perdre et pas transformer. Donc, dès le départ, si je ne rentre pas dans le regard des autres ou dans l'éducation, hein, éduquer, hein, c'est quand même, quand on dit il est bien éduqué, ça veut dire il connaît bien les lois, hein. Donc, si je rentre pas dans ce système, eh bien, à ce moment-là, je suis en danger de mort, ce que j'appelle de mort, alors que je suis en danger de transformation. Mais si je me transforme, même plus.
Et ce côté être bien domestiqué dans une société bien établie, c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment ressenti ces derniers mois, ces dernières années, surtout avec la crise sanitaire, où j'ai vu les gens vraiment agir selon leur conditionnement. Justement, le fameux syndrome du bon élève, je vais être le préféré du boss et du coup, je vais tout bien respecter bien comme il faut et en faire des caisses. Et on a tous un peu assisté à des espèces de... J'ai l'impression que les gens ont théâtralisé leur dramaturgie intérieure. C'était assez fascinant à observer. Et du coup, ça crée un peu comme de la disharmonie autour de nous. Et comment on peut faire pour rester en harmonie quand on voit qu'autour de nous... Tout perd son sens.
Je crois que faut rester comme le pinson, le rat, le moustique. Quel est mon territoire et donner vie à son environnement par rapport à soi, quoi. Plus je vais dans ma mise à nu, hein, ce qui est interdit, hein, bien entendu, plus je vais dans ma mise à nu, plus je peux tuer. Et ça commence par se donner le droit de tuer. C'est quoi? C'est-à-dire que quand je révèle mon champ, ce que je ressens dans mon corps, à nouveau, on revient à cette rencontre avec la Terre, quand je pars de mon corps, je vais émettre une vibration et une réalité qui me ressemble. Il est évident que ma mère ne peut ne pas me reconnaître. Mon compagnon ou ma compagne non plus. Quand je dis ça, on dit « Ah non, non, c'est pas toi ». Je dis « Si, ça, c'est moi. C'est moi. » Et ça, on dit « Si t'es comme ça, alors ça m'intéresse plus. » Eh ben, tu t'en vas. Et pourquoi? Parce que quand on s'en va, c'est comme le loup, quand il ose être un loup, il va avoir des potes loups qui viennent. Mais par contre, les potes moutons vont se barrer. Et c'est normal.
Oui, oui.
Bon, eh bien, quand je me retourne vers moi et que j'ai le courage donc de tuer le rêve des autres qui projettent des choses sur moi, auxquelles je suis fidèle, parce qu'on m'a appris depuis le début qu'il faut que je sois fidèle à l'histoire collective de ma famille, puis de mon pays, puis du monde, hein. Donc, quand je dis, moi, je fais juste mon chant, ma réalité se transforme. Et c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, si on veut voir le monde bouger, il faut que son chant à soi se révèle pour que vous voyez qui s'éloigne, qui s'approche, et on va même au-delà. Parce que quand on commence à être dans la nudité de soi, hein, comme on dit, quand ils ont été chassés de l'Éden, qu'ils ont enfin mangé la pomme, heureusement qu'Ève a fait cette histoire, eh ben, ils ont vu qu'ils étaient nus. Bon, eh ben, quand on est nu, quand on ose se mettre à nu, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on découvre sa terre. Et on sait qu'on ne peut pas vivre partout. On sait que dans tel lieu, on est bien, mais pas très bien. Et que dans tel autre endroit, eh bien là, on s'épanouit, on respire mieux, on est mieux. Et ça aussi, nous, on a l'idée que le monde nous appartient. On peut bouger, bien sûr, mais il y a des endroits sources, des endroits où là, c'est lié à notre terrain. Quand on voit les plantes qu'on a dans les appartements, quand on les retrouve en forêt, on dit « Ah, tu rigoles, c'est ça ? Oh, pas vu. Là, j'ai pas vu que c'était ça, quoi. Ben, » elle n'est pas pareille, hein ? On s'adapte à tout. Mais est-ce que on va au bout de soi quand on est dans un terrain qui est aride? Non. Et c'est là où son cri, son enracinement crée les conditions nécessaires où quel que soit ce que l'on a à vivre, le monde vaudra le coup d'être vécu.
Waouh. Ghislaine, j'aimerais revenir sur la question de la sexualité. Il y a une question que j'ai oublié de vous poser. On entend pas mal que l'acte sexuel, c'est un transfert d'énergie, un transfert énergétique. J'ai aussi entendu que c'était un peu comme si on mutualisait tous nos fichiers, les lumineux et les plus ombrageux. Est-ce que ça a du sens pour vous? Est-ce qu'on a la capacité de se connecter au meilleur et au pire de l'autre lors d'un acte sexuel?
Non, non. L'autre, non. L'autre ne révèle que ce qui est en moi. Si je n'ai pas la partition à l'intérieur, ça ne se révèle pas. Ou alors, il faut qu'il y ait un événement extrême. C'est-à-dire un coup de foudre, il va révéler quelque chose qui n'est pas en moi. Je sais pas, une terreur qui va révéler quelque chose qui n'est pas en moi. Mais l'acte sexuel, s'il se révèle, et qu'il a accepté, hein, bien entendu, hein, des deux côtés, ne va réveiller que ma musique. De la même façon que je vais détester quelqu'un parce qu'il réveille chez moi la partie que je déteste. Je vais admirer quelqu'un parce qu'il réveille chez moi la partie que je n'ose pas admirer. Mais il faut qu'en moi, ça vibre pour que ça se mette dans cet état. Donc, sexuellement, là où nous amène l'autre, c'est qu'il amplifie. Et la relation amplifiée, hein, si je mets deux énergies, j'augmente, mais je l'augmente dans ma vibration. Et vice-versa pour l'autre. Il augmente dans sa vibration. Par contre, quand on parle de l'ombre et la lumière, ça me fait toujours mourir. Parce que,
on est dans la dualité.
On a besoin des deux. On a besoin des deux.
Oui,
tout commence par le noir, sinon vous ne pouvez pas vous éclairer. C'est impossible.
Exactement.
Donc, il faut que vous alliez dans le noir pour voir votre lumière. Quand j'ai des fantasmes où j'imagine que je suis prise, je ne sais pas si je suis de fille, par trois mecs, donc un qui est tout transpirant, tout bavant, horrible, et que je ne peux pas dire un non, vous allez me dire, oh, là, tu vas dans ton ombre. Non, je vais dans une soumission. Et comme je suis quelqu'un qui contrôle beaucoup, je vais me mettre vraiment de l'horreur pour dire oui. Parce que dans le oui, j'accepte l'inacceptable et je me relibère.
Wow.
Et très souvent, c'est ça qui se passe dans la vie. Quand on a face à l'inacceptable, on perd un enfant, on a des trucs, on dit non, non, ça, c'est pas possible. C'est au moment du oui, quand il vous traverse dans cette horreur, que la lumière et le soulagement de l'acceptation peuvent enfin faire fleurir autre chose. C'est ça. Donc, on va dans la mine pour trouver le diamant. Bon, c'est ça.
Oui, puis j'aime aussi cette idée de se dire que les plus beaux trésors sont dans les caves, dans les grottes les plus sombres.
Oui,
et,
oui.
Donc en fait, plus on va profondément en nous explorer justement ces parties non éclairées, plus finalement on leur donne le potentiel de l'être, d'être éclairé ensuite.
Bien sûr, et si on regarde... Je fais, je sais plus quel était le, je me souviens plus son nom maintenant, du pharaon qui était fou du dieu soleil, hein, et donc il regardait en méditation le soleil est devenu aveugle. Hein. Si je regarde le soleil, je vois plus rien, d'accord. Par contre, à l'ombre, tout d'un coup, je peux tout observer. Alors, quelle est cette folie que nous avons mis dans la nuit, alors que la nuit est le début du monde, hein, d'où naît la lumière. Donc, c'est de nos terreurs, de nos blessures, de tout ce qui nous sculpte dans la vie, que naît la légèreté, l'ouverture et la paix.
Ouais.
J'aime autant le noir que la lumière. Et il ne faut pas croire, des fois le bonheur est plus dur à vivre que le malheur. Parce que dans notre société, on a tellement peur toujours de cette punition, puisqu'on est dans un monde comptable, même religieux. Ça fait que quand je suis dans un moment qui va très bien, je dis, oh là là, qu'est-ce que je vais prendre? Voilà. Alors, très souvent, on se crée vraiment quelque chose pour pouvoir supporter le bonheur qui vous est accordé. Alors que dans la souffrance, on connaît bien comment ça marche. Et beaucoup de gens cultivent leur souffrance pour être sûrs de ne pas être prisonniers d'un bonheur qui pourrait leur faire trop peur.
C'est magnifiquement dit. Merci Ghislaine. Ça résonne énormément avec plein de choses et plein de comportements aussi qu'on peut répéter, de schémas qui sont finalement pas bénéfiques pour nous, mais dans lesquels on s'est conditionné. C'est comme si on s'était créé une légende personnelle et qu'on l'alimentait.
Oui.
C'est assez incroyable.
Oui, et on tient plus à notre personnage qu'à la réalité de ce qu'on vit. Quand je suis quelqu'un de bien, moi, je ne lâche pas l'affaire, je vais jusqu'au bout, d'accord ?
Oui.
Il y a des fois, à mi-chemin, on sait qu'on va se faire très mal, quoi. Hein. Mais moi, je suis pas comme ça, je lâche pas l'affaire. Bon, bah, c'est ton choix. Le personnage, c'est-à-dire arriver à changer d'attitude par rapport à mes habitudes est plus douloureux que la douleur que je connais et celle vers laquelle je vais aller. Il faut réfléchir à ça. Hein. C'est pour ça que le corps, lui, peut pas rigoler avec ça. Le corps, j'ai mal, il dit j'ai mal, j'arrête. C'est facile, quand j'ai trop mal, j'arrête.
Oui.
Si j'ai un feu et que je mets le doigt, je le retire. Je dis pas, oh, je vais garder le feu, je vais brûler mon doigt et ça va rien me faire.
Et justement, si est-ce qu'on a la possibilité d'ajuster finalement le ressenti, la sensibilité qu'on ressent de par notre corps avec notre mental? Est-ce qu'on peut avoir ce même niveau de réceptivité?
Ah ben, c'est certain. Quand on parlait, qu'est-ce que c'est un chaman, c'est qu'il a un outil, le corps, qui est un instrument de musique fabuleux. Parce que la sensibilité passe par là. Par exemple, si on prend la vue, oui. La vue n'existe pas. On est dans deux salles de cinéma. Il n'y a pas de monde extérieur. Il faut d'abord comprendre ça. Moi, pendant des années, je croyais que par les trous, là, on voyait le monde extérieur. Donc, il me semblait qu'il n'y avait qu'un monde extérieur, celui qu'on voyait, que tout le monde avait des trous et que donc, on voyait la même chose. Hein. Bon, le jour où j'ai compris...
Alors là, Ghislaine, je pense qu'on doit faire une pause. Non, mais une pause juste pour recevoir ce que vous venez de nous dire. Nos yeux ne nous permettent pas de voir l'extérieur.
Ben non.
Et ouais.
Ils sont des salles de cinéma fermées. C'est la vibration qui fait une transformation et on met l'image.
Waouh.
Donc, c'est pour ça qu'on ne voit jamais la même chose, bien entendu.
Bien sûr, bien sûr.
Mais selon nos vibrations, c'est ce qui fait que, par exemple, je suis amoureuse, je vais dans ma rue, que je connais très bien, mais là, ce jour-là, je suis amoureuse, je trouve que tout est beau. Ah non, je trouve que les gens, ils vont vraiment mieux. Tu ne trouves pas qu'ils vont mieux? Je suis en deuil, je trouve que tout est froid. Ce monde, personne ne se parle. La rue n'a pas changé, les gens n'ont pas changé.
Ouais.
Ma vibration me fait voir l'image autrement. Et c'est ça, et c'est tout le problème, c'est que, en fait, quand je pars du corps, la vibration fait le travail de l'enfant, hein, quand il est nourrisson. Il commence, l'enfant naît aveugle, hein, pourquoi? Donc, il faut les vibrations créent des images, ces images nous amènent notre réalité. Tant que j'ai un corps, ma réalité se transforme parce que j'ajoute des vibrations, c'est comme si j'ajoutais des notes à mon piano. Mais à partir du moment où je n'ai plus de corps, je joue avec les mêmes notes. Ce qui fait que quand je pense quelque chose, je fais exactement comme l'intelligence artificielle, je vais chercher dans mes souvenirs comment j'ai converti cette vibration en image. C'est ça. Et donc, on sort. Si on veut voir, il faut sentir. Sinon, on reste dans un schéma d'ordi et on sera un vrai robot. Et c'est pas un problème, mais c'est un choix différent que ce qu'ont fait les Indiens, puisque on parle du chamanisme.
Extraordinaire. ce que vous venez de nous offrir, Ghislaine, c'est une initiation. Alors, je vous remercie parce que le fait de comprendre ça, de comprendre que chacun voit le monde selon ses vibrations, selon les notes qu'il a à sa disposition et l'interprète aussi, selon plein de filtres, ça permet de comprendre énormément de choses sur les comportements, sur parfois on peut se disputer avec quelqu'un en disant « non mais moi j'aurais jamais fait ça à sa place ». Mais on ne peut pas, ça n'existe pas en fait, on n'est pas à la place des gens.
Oui.
Et c'est vrai que ça change énormément de choses sur l'acceptation de l'autre.
Ça change beaucoup de choses parce que c'est-à-dire que pour communiquer, on va mettre... pas je vais te vendre mon monde, mais je vais t'amener dans mon monde pour me sentir important. Non, je vais être dans la curiosité. Mmh. Une des qualités qu'amène le partage, quand on sait qu'on est unique, c'est la curiosité, sans le jugement. Parce que la curiosité n'a pas de jugement. Quand on fait un voyage touristique, par exemple, maintenant on ne pourra plus en faire, mais enfin à l'époque on pouvait se déplacer, on voyait des coutumes ou des choses, on disait oh là là là, moi alors là jamais. Mais on s'appelait le touriste. Alors on pouvait regarder, être étonné, poser des questions, des fois ramener des choses à la maison, et puis laisser ceux qui non ça on le ramène pas. Eh bien, ce schéma-là amène cette rencontre de la curiosité et du partage sans le changement, sans le jugement, et qui permet le changement.
Voilà. Oui, bah oui, parce que du coup, on permet à nos corps à être perméables, à recevoir aussi ces nouvelles vibrations. Alors que oui. Si on juge l'extérieur, on se coupe de cette influence.
On est tout seul. Hein. Je veux dire, quand on n'a pas de corps, c'est une masturbation de la réalité en permanence. Donc, on fait de l'intelligence artificielle et on reproduit toujours les mêmes choses. On change de mec ou de femme juste la couleur des cheveux parce qu'on revient au même endroit. Au travail, on reproduit les mêmes erreurs avec les mêmes copains. On fait la même chose. Comme un ordi, hein. C'est pareil. Hein. Comme un programme informatique, c'est pareil. C'est pareil. Ouais.
Et justement, parce qu'on parlait tout à l'heure de sexualité, de lien intime, j'ai l'impression que pendant longtemps, on a été bercé dans l'illusion que l'amour, c'était l'union des corps, et que là, on va peut-être toucher du doigt à une autre dimension de l'approche de l'autre, avec l'union des fréquences, passer de l'union des corps à l'union des fréquences. Comment savoir, Ghislaine, si on vibre juste? Quels sont les signes qui annonciateurs, voilà, d'une bonne accroche fréquentielle avec l'autre?
L'accroche fréquentielle, c'est l'accroche de sa pensée avec une autre pensée. Et il faut savoir que très souvent, comme on est loin et qu'il n'y a pas le corps qui peut donner un sous-texte différent, eh bien, on réagence toujours la réalité qu'on entend à sa façon. Déjà qu'on ne voit quand on a des réalités différentes, mais si on les met par chat ou si on les met par même à travers des vidéos que l'on fait ensemble, des zooms ou autres, on est, comme le corps n'est pas touché, on est des réalisateurs en permanence. Mmh. Déjà, on est capable de ne pas voir l'autre si on veut pas. Il suffit d'un clic. Hein? Alors que quand on l'a à côté, on est bien obligé de supporter, même dans les moments où on voudrait être seul. Mais du coup, ça révèle une autre part de l'autre et on ne peut pas zapper là-dessus. On voit que les couples fermés, sans être virtuels, peuvent rester ensemble alors qu'ils n'ont rien à faire ensemble. Tout ça parce qu'ils sont tous les deux coincés à leur début d'histoire, quand ils étaient comme ça et que ça se passait bien. Donc, ils rentrent dans la vibration comme la même chose qu'à l'écran. C'est pareil. Là, ils ont mis le corps, mais le corps s'est fermé pour laisser l'histoire, et on dit, on fait ça pour nous. Combien de fois on venait me voir et on me disait, on vient pour notre couple. Je dis, ah bon, vous l'avez amené là? Parce que je ne le vois pas. Je vois toi, mais je n'ai pas vu le couple. Vous voulez me l'amener? Et le couple devient l'histoire qu'il faut protéger. Donc, c'est le chat, hein, où on s'y met tous les soirs, on parle de notre couple, on fait pour notre couple, on se sacrifie pour notre couple. Voilà. Et quand on met la réalité du corps, et bien là, ce n'est pas possible. Alors, où on va maintenant, je ne sais pas, mais on va dans du mort, encore plus mort qu'avant. Quand on aura écrit une histoire, ça va être dur de s'en séparer parce qu'elle sera immortelle puisqu'on pourra la réagencer en permanence. Alors que dans la vie, nos histoires, qu'elles aient été, elles sont toutes de toute façon à un moment bonnes et à un moment elles font souffrir et à un moment elles apprennent, eh bien nos histoires nous transforment quand elles sont vécues dans l'ensemble de l'être. Alors que de là, ben, c'est la masturbation virtuelle qui va arriver au niveau de l'esprit et on pourra jouir très très facilement, de plus en plus, rien qu'avec son cerveau, on n'aura vraiment plus besoin d'un corps.
Tout sera stimulé en même temps et il y aura même une analyse personnalisée de nos points d'excitation et donc du coup, on sera dans quelque chose qui va devenir basique, un peu frelaté. Et comment justement, est-ce qu'on va perdre définitivement, pour les personnes qui auront choisi cette voie-là de jouissance, le côté sacré de la sexualité?
Ben, tout à l'heure, je disais que tout était sacré, hein, mais la sexualité est une porte qui mène à l'éternité. Hein. C'est-à-dire, on descend aux enfers et on rencontre la lumière de la vie et la chaleur de la vie. Et on sent son immortalité, c'est la transe. Bon, on a déjà viré ça depuis fort longtemps et il faut vraiment être en amour pour découvrir qu'on est ailleurs. On dit souvent « waouh ». Alors, à l'heure actuelle, comment quitter ça? C'est pas un choix. Quand quelqu'un est coupé de son corps, il a une créativité sexuelle incroyable. Mais quand on est pris dans ce monde où on jouit d'être un créateur, on passe dans une excitation qui est l'excitation du garçon à l'époque à qui on obligeait à faire l'amour à une femme qui était un bout de bois. Il fallait qu'il rentre dans son excitation de puissance pour pouvoir jouir. Eh bien, aujourd'hui, quand on est en virtuel, eh bien, on est des créateurs. Ce qui fait que je réinscris mon histoire, je refais tout, et c'est cette jouissance de pouvoir agir sur le monde comme je veux qui me stimule. Mais je fais que du, comment dire, et je sais pas comment ça va se passer pour les enfants. C'est vraiment un problème, hein, parce que ils auront pas, ils vont être vraiment
plongés là-dedans.
Ça va être dur. On voit que, par exemple, la prostitution hein, a augmenté d'une façon incroyable chez les enfants de 14, enfin les pré-ados, hein, 13,
oui, oui, bien 15 ans, sûr.
Et qui arrivent à des sommes de 10 000, 15 000 euros par mois hein, à faire, parce qu'ils sont rentrés dans un autre monde, coupés complètement de leur corps. Hein. C'est vraiment rentrer dans autre chose. Et on voit des douleurs, des situations que je ne connaissais pas avant hein, et où j'ai pas la solution. Moi, la seule solution, c'est que aujourd'hui, j'ai envie de permettre au plus grand nombre, en tout cas ce que je rencontre, de prendre conscience que suffit pas d'être vigilant. Hein. C'est comme pour la drogue et tout. Hein. Si on prend de l'héroïne, si on prend de la cocaïne, à un moment, même avec des plus grandes vigilances, on peut être accro. Hein. Et ben, c'est la même chose. Donc, ça demande de mettre pour l'équilibre. Hein, un marteau a jamais tué personne. Hein, donc, c'est comment on se sert du marteau.
Et bien,
pour l'équilibre, il faut vraiment consciemment aujourd'hui se dire, je veux pouvoir faire bouger mon corps. Pour ça, j'ai besoin d'autres outils qui ne disent pas on me manipule, ceci, cela, mais qui vivent la vie comme une initiation. Quand je laisse quelqu'un me manipuler, c'est quoi? C'est quand je permets à quelqu'un de toucher la part de rêve de moi-même que je n'ose pas regarder. Si on me dit oh là là, tu es une fille extraordinaire, je suis sûre que tu as ça, alors que je crois que je suis minable de chez minable, en principe, quand on dit ça, je n'écoute pas la personne, mais il y en a un qui réveille chez moi mon désir d'être merveilleux. Ben, il fera ce qu'il veut, mais c'est pas lui qui fera ce qu'il veut. C'est que dans son regard, ça éveille le merveilleux, mais je crois que c'est lui qui le voit au lieu de comprendre qu'il est en moi. Dans ces cas-là, celui qui me manipule, ben, je devrais lui dire merci. Parce que si je me réapproprie ce qu'il a vu au début, avant de me dire « mais non, tu vois rien ouais. », eh bien, si je me réapproprie cette ouverture, alors je peux oser vivre le merveilleux qui est en moi.
Ça part toujours de nous, en fait, de la conscience qu'on met sur les choses qu'on décide d'accepter, de voir réel, de voir exister en nous ou pas.
Oui, de sentir en nous les choses pour qu'elles se révèlent. Je pars de ce que je sens et ça me crée une image. Et non pas je réorganise ce que j'ai déjà vu, c'est-à-dire les données que j'ai eues. Spiritualista.
Par rapport à la période là qu'on est en train de vivre collectivement, souvent, Ghislaine, j'entends des personnes qui peuvent un peu me dire ou dire à d'autres personnes qui partagent un peu la même vision que moi, quand on décide de pas aller dans le scénario qu'on essaye de nous vendre, qui est autour de la peur, du drame, du manque, et de développer une autre fréquence. Non mais toi t'es déconnecté de la réalité, tu tiens pas à jour sur l'actualité, t'es hors sol. Comment gérer justement ces choses-là? Est-ce qu'elles sont justifiées? Est-ce que c'est vraiment être hors sol?
C'est vrai.
Dire non à un certain scénario où on doit quand même rester connecté aussi à ces fréquences-là.
C'est vrai. Quand quelqu'un dit t'es déconnecté de la réalité, t'es hors sol, il a raison.
Ouais.
Puisque aujourd'hui, la réalité collective et la réalité virtuelle. Pas virtuelle, simplement les outils. Je parle, on rentre dans une vision du monde qui est véhiculée et qui est déconnectée du vivant. L'essentiel de nos informations, de nos films, on voit bien, les enfants ne peuvent plus sortir dans la rue parce qu'un fait divers est devenu le monde. Donc, et ça vient de tous les morts qu'ils voient pour se détendre dans les séries. Donc, on est rentré dans un monde où, effectivement, celui qui retourne dans les sensations, dans la terre, qui voit le vivant, on dit, tu es déconnecté du monde. Ben oui, puisque c'est le seul monde qui est autorisé.
Ouais.
Comment ? Ils ont raison. Quand quelqu'un me dit ce que j'avais fait comme vidéo, t'es perché, je dis non. Le type qui est enraciné, il est perché, donc il n'y a pas de problème. Je suis perché, si tu veux. On a inversé les mots, mais pourquoi pas ? Puisque
le monde des valeurs. Ouais.
Voilà, le monde fictif, c'est devenu le monde réel. Je veux dire, quand on nous dit un truc tout bête. Dans certains pays, ils l'ont interdit, mais le nitrate, pour le jambon et tout le reste, donne le cancer. On a les preuves, maintenant ça a été validé par le tribunal, etc., etc. Bien. Dans un monde réel, où, logiquement, on ne s'empoisonne pas, avec bonheur, non, l'empoisonnement est plutôt interdit, on l'interdit. Eh ben, nous, non. Non, ouais. On va attendre encore 2-3 ans en France.
Oui, c'est parce qu'un jambon gris, moins bien qu'un jambon rose.
Donc là, si on dit, mais attends, moi je préfère le jambon avec sa couleur, on dit, écoute, tu es déconnecté de la réalité. Ouais. Si on dit, tu sais, je préfère vivre que mourir parce qu'il y a des nitrates, mais écoute, tu es déconnecté de la réalité. Bien sûr, mais moi je l'accepte d'être déconnecté de la réalité, c'est vrai. Parce que là, la mort, et là on revient à cette mort, la mort existe pour moi. Alors que pour l'autre, c'est un schéma d'éternité qui nie la mort. Je peux manger tout ça, c'est pas grave. Mais enfin, on a fait pour le sang contaminé, on a bien dit qu'il faut finir les stocks. Ça, c'est quand même un schéma irréel. Mais ça, c'est la réalité virtuelle. Un comptable peut dire « Ah non, là, il y en a trop, on continue ».
Et justement, c'est marrant que vous fassiez référence à l'affaire du sang contaminé, parce que dans un monde réel, l'homme politique qui était à l'initiative de cette catastrophe sanitaire ne devrait pas poursuivre et faire de la politique. Et j'ai vu que récemment, c'est lui qui était à l'initiative de la mise en place du pass, je ne sais plus si c'est vaccinal ou sanitaire, je ne sais plus où on en est. Mais et du coup, je trouve ça extraordinaire. C'est Fabius, c'est ça. Et voilà, dans un monde réel, cette personne-là ne devrait plus exercer.
Mais bien sûr, mais il n'a pas fait d'erreur, puisque lui, il est dans le monde réel qui est virtuel.
Exact.
Donc, il a eu la l'attitude adéquate.
Totalement.
Et c'est comme ça qu'on commence à comprendre. Parce que quand, par exemple, nous, on voit mourir les abeilles, enfin, c'est quelque chose qui est horrible, et qu'on voit que ceux qui avaient été interdits il y a 2 ans sont à nouveau de retour, on dit non, on l'a arrêté, quoi. On s'est battu, on a fait la fête quand ça a été interdit et maintenant on vous les remettez parce qu'on n'a pas le choix. Arrêtez. Mais on peut dire ça parce qu'on sent. C'est pour ça que je comprends aussi tous ceux qui disent écoute, c'est trop pour moi. Parce que sentir et s'ancrer dans la terre, c'est pleurer avec elle. Mais il faut savoir que le vivant a des ressources. L'esprit du vivant est partout. Et donc, on n'est pas seul. Il y a la vie avec nous. Et peut-être qu'on a besoin de s'approcher de ce gouffre entre le monde à l'image et le monde réel pour pouvoir enfin s'incarner, consciemment.
Consciemment, bien sûr. Et cette question de la conscience, c'est comment vivre sereinement, dans la douceur, en éveillant justement la conscience en nous. Est-ce que c'est possible déjà ?
Le fantasme de vivre en paix et la douceur s'appelle pas la vie. Quand on regarde le climat, aujourd'hui, il y a des climats tempérés, il y a des climats tropicaux. Donc, il y a des gens qui vont être soumis au climat tropical. Il pleuvra beaucoup. Puis, il y en a qui seront dans un schéma beaucoup plus doux parce que c'est un climat tempéré. La vie est faite de pluie et de soleil. Nous, on veut vraiment de la brise, de la brise. Bon, c'est pas possible. Alors, tant qu'on reste dans ce fantasme, on souffre beaucoup. Par contre, dès qu'on prend chaque instant, on peut pas souffrir. Quand je suis dans, enfin, on souffre bien sûr, mais je veux dire, je sais pas, quand on accouche, par exemple, au moment de l'accouchement, c'est horrible, ça fait très très mal. Et franchement, on est tellement là-dedans qu'on n'y pense pas, quoi. On pense même plus qu'il y a un enfant qui sort, quoi. Bon, on veut juste que ça s'arrête, hein. Mais quand on est en train de mourir, c'est pareil. On meurt comme on a vécu. Et quand on est fixé au moment de sa mort, on est entièrement là. Quand j'ai un accident de voiture, pendant le moment de l'accident de voiture, j'ai absolument pas peur. C'est après, par contre, que je crève de trouille. Mais l'action, au moment de l'action, si je suis vraiment là, quand je souffre, je souffre, je m'occupe de la souffrance. Quand je suis gay, je m'occupe de la gaieté. C'est le seul moyen. Et c'est pas facile parce que nous sommes vraiment, vraiment conditionnés pour être toujours un temps à l'avant. Ce qui fait que quand on est bien, on a peur d'être mal. Et quand on est mal, on a peur de pas s'en sortir. Donc, on a oublié que tout passe. Hein, et que nous sommes des, comment dire, des météos, quoi. En fait,
oui,
on a
bien sûr.
De la grêle,
on
du
fluctue.
Vent.
Oui, on change.
On fluctue. Et c'est d'essayer de trouver dans chaque mois, quand il pleut, par exemple, on a eu une grosse période de sécheresse, ben, qu'est-ce que j'étais contente. On me dit, ouais, mais tu vois, c'est les vacances. Je dis, mais je m'en fous, la nature en profite. Qu'est-ce
bien
que je suis
sûr.
Contente. Donc, je vois rouler la pluie comme c'est bien. Quand le gel vient pas, comme il n'est pas venu cette année, je suis malheureuse. On me dit, ouais, mais on est bien. Mais je dis, non, s'il y a du gel, je suis contente parce qu'à nouveau, les plantes vont pouvoir se reposer. Paf. C'est si je pense pas qu'à moi, je découvre que quelle que soit la saison de ma vie, il y a toujours à un endroit un côté qui lui est bien.
Ghislaine, j'ai une dernière question. J'aimerais connaître votre avis en tant que chamane de ce qui voilà, de ce qui va arriver, de ce qui est déjà là. Est-ce que vous avez des conseils à partager avec nous pour poursuivre notre avancée, notre éveil de conscience ensemble, notre réveil de conscience et pour poursuivre tout ça le mieux possible.
Bah, d'abord, savoir que si vous vous sentez triste, si vous vous sentez complètement dépassé et impuissant, deux, si vous avez l'impression que il n'y a plus rien à faire et qu'il y a une lassitude en vous, bienvenue, vous n'êtes pas un robot. Ça, c'est la première chose. Donc, vous dire, ben, c'est normal parce que la situation est difficile, on se sent impuissant, je suis triste de ce que je vois, et ça veut dire que vous êtes sensible et consciente de ce qui se passe. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, quel que soit ce que j'ai à vivre, et c'est sûr que ce qui vient ne sera pas agréable à vivre, pour que ça vaille le coup quand on a des enfants, de se dire oui, mais on va vivre quand même ça, il faut penser que la richesse, quand on est un groupe qui pense protéger, sauver, aider, les uns ou les autres, ou une plante ou un chien, qu'importe, mais quand je suis dans le soin ensemble, même la guerre, je vais trouver de la joie. C'est la vie n'a pas forcément un paysage calme, avec une grande paix, pour amener le bonheur. On voit que dans les camps de concentration, on a eu des écrits sur la liberté et l'amour étonnant. Solzhenitsyn a pu parler de la liberté, mais le cœur de Mandela, qui était un guerrier, s'est ouvert après 25 ans d'emprisonnement. On va découvrir que partout où les gens sont maltraités souvent, ils découvrent le respect d'eux-mêmes et du monde. Alors, nous sommes dans une période où il ne faut pas oublier que la noirceur qui vient ne peut qu'éclairer la lumière qui est en vous. C'est ça que j'ai envie de vous dire.
Merci Ghislaine, merci, merci, merci mille fois pour ce beau partage, pour cette poésie et ce vivant que vous nous avez transmis au travers de votre voix et tout votre être. Merci Ghislaine, c'était un énorme plaisir de vous avoir comme invitée dans Spiritualista.
Eh bien écoute, un plaisir partagé. Amen.
Spiritualista.
Et voilà, c'est tout pour ce 41e épisode de Spiritualista. Je te remercie pour ton écoute, pour ta confiance, pour ta fidélité. Il était incroyable hein, cet épisode avec Ghislaine Duboc. C'était un vrai, vrai, vrai plaisir d'échanger avec cette femme puissante, inspirante. cette chamane des temps modernes. Je me suis régalée et je pense que toi aussi tu t'es régalée. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode de Spiritualista. Ça sera un solo time et ça sera l'épisode 42. Si tu as envie de suivre toute mon actualité, je te donne rendez-vous sur mon compte Instagram Spiritualista Podcast. Si tu as envie de prendre en main tes vibrations, je te propose mon accompagnement audio, les 21 règles pour vibrer haut. Et dans quelques jours, je vais aussi sortir une formation de radiesthésie pour te permettre de t'initier hyper facilement au pendule. Je te souhaite de rayonner, de ressentir chaque jour un petit peu plus de lumière et d'amour dans ton cœur, et je t'embrasse bien fort.
Spiritualista.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.